Cévennes. Alors c'est une très bonne nouvelle pour les Pyrénées-Orientales hein, qui est touché. Ce département est touché fortement par une sécheresse exceptionnelle cette année. Donc il y aura de la pluie sur les Pyrénées-Orientales. Le temps est calme sur le nord et l'ouest du pays et les températures sont comprises entre 12 et 26 degrés aujourd'hui. 26 pour Ajaccio en Corse où hier il a fait 29 degrés. Hein. Il a fait très chaud pendant qu'il faisait 11 à Besançon au même moment.
Et de très très fortes pluies dans le Lyonnais. On va en parler d'ailleurs dans le journal de 8h sur Europe. Un bon réveil, bonne journée à vous. Nous sommes le lundi 29 avril, il est 8h.
Europe 1 matin.
7h-9h. Dimitri Pavlenko.
Le choc et le deuil à Châteauroux où un adolescent de 15 ans a été mortellement poignardé samedi lors d'une bagarre avec un jeune Afghan du même âge. Son agresseur présumé est déjà connu de la justice. Il a été placé en garde à vue, de même que sa mère. Les nues universités vont-elles emboîter le pas à Sciences Po Paris? Inquiétude sur de nombreux campus où les tags antisémites prolifèrent. Reportage Europe 1 à Strasbourg dans un instant. Dans ce journal également, le malaise de l'hôpital où les accusations d'agressions sexistes et sexuelles se multiplient. Vous entendrez, il n'y a pas que le personnel médical qui subit des violences. Et puis on connaît désormais le jury du Festival de Cannes, composé de stars françaises. On vous dit tout à la fin de ce journal. 8h10, votre invité Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invité, il a été Premier ministre et ministre de l'Intérieur. Manuel Valls réagira aux suites du blocus à Sciences Po Paris et au risque de contagion sur le modèle, ou plutôt l'anti-modèle américain. À tout à l'heure.
Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Encore un adolescent de 15 ans, mortellement blessé ce week-end après une bagarre à l'arme blanche. Cette fois-ci, c'est à Châteauroux, quartier Saint-Denis. Matisse a été poignardé plusieurs fois dans le dos et au thorax. Son agresseur présumé, 15 ans lui aussi, a été placé en garde à vue avec sa mère. Il s'agit d'un jeune d'origine afghane, déjà défavorablement connu des forces de l'ordre. Écoutez Éric Henry, délégué national du syndicat Alliance Police.
Le présumé auteur du meurtre était déjà en garde à vue la semaine dernière pour une agression également au couteau. Il avait été libéré et placé sous contrôle judiciaire. Les mineurs ont un régime spécifique, une excuse de minorité. Cette excuse de minorité, elle joue pleinement. Elle a été utilisée par le magistrat qui a libéré ce jeune et qui l'a placé sous contrôle judiciaire. Est-ce qu'il aurait pu le mettre dans un centre éducatif renforcé en attendant ou l'écarter du secteur? Ça, c'est une question aussi qu'on peut se poser et des réponses doivent être apportées.
Éric Henry au micro Europe 1 de Martin Lange. L'ultra-violence des jeunes dénoncée par le maire de Châteauroux sur les réseaux sociaux, Gilles Avroux, appelle, je cite, à une peine exemplaire, une justice intransigeante d'une sévérité extrême pour enrayer cet ensauvagement qui touche notre pays. Fin de citation.
Alors, on va essayer de comprendre ce matin sur Europe 1 avec vous, Georges Fenech. Bonjour Georges.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1. Georges, vous êtes ancien magistrat, ancien député. Alors, l'agresseur présumé était libre puisque le juge avait utilisé ce qu'on appelle l'excuse de minorité. Quel est votre sentiment ce matin, Georges ?
Écoutez, comme avec la petite Samara, vous vous souvenez à Montpellier, comme avec Shemseddine, vous vous souvenez également à Viry-Châtillon, ben voilà, aujourd'hui c'est Châteauroux, c'est le même cas de figure, c'est-à-dire un mineur violent, déjà épinglé par la justice et qui est immédiatement relâché en application du code pénal des mineurs qui rentrait en vigueur en 2021, c'est-à-dire sous l'actuel garde des Sceaux. Or, aujourd'hui, les mineurs qui commettent des infractions graves, ils sont immédiatement relâchés parce qu'on ne peut pas les juger tout de suite, parce qu'on ne peut pas les condamner tout de suite. Donc, il serait temps aujourd'hui de revoir entièrement le dispositif de lutte contre la délinquance des mineurs, faire en sorte qu'il y ait des comparutions immédiates, des sanctions, courtes peines également, qui sont vraiment très efficaces pour lutter contre la récidive, et puis sanctionner les parents qui laissent traîner leurs enfants, notamment par des tutelles aux prestations sociales. Il faut changer de braquet, les Français l'attendent, mais on ne le voit pas venir.
Georges, l'auteur présumé, le meurtrier présumé de Matisse, 15 ans, est d'origine afghane, un pays marqué par la guerre, en proie à la pression des talibans. Est-ce que ça pourrait expliquer la violence de cet adolescent?
On ne va pas se le cacher, les attaques au couteau, c'est culturel. C'est comme ça dans certaines régions du monde, notamment celles qui nous alimentent effectivement en immigration. On a un défaut d'intégration de ces jeunes qui refusent maintenant toute autorité, qu'elle soit à l'école, devant la police. On voit bien à Givors, qui était la ville de ma circonscription, la dernière circonscription, vous avez des mineurs qui organisent une réplique, des mineurs qui organisent une réplique contre les forces de police parce qu'ils ont interpellé l'auteur aussi d'une agression. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, ils sont lâchés dans la nature et qu'on ne se dote pas des moyens pour lutter contre cette délinquance de plus en plus sauvage.
Merci beaucoup Georges Fenech, ancien magistrat, éditorialiste Europe 1. Merci Georges d'avoir été avec nous dans Europe 1 Matin.
Vous écoutez Europe 1 Matin, il est 8h05.
L'espoir d'une nouvelle trêve à Gaza aujourd'hui. Le Hamas doit donner sa réponse lors d'une réunion au Caire avec les négociateurs égyptiens et qataris. Le groupe terroriste palestinien a assuré hier n'avoir, je cite, « aucun problème majeur quant à la dernière proposition soumise par Israël pour libérer les otages et mettre en place un cessez-le-feu ».
Et pendant ce temps, en France, le gouvernement va déposer plainte contre Jean-Luc Mélenchon pour injure publique.
Oui, le leader insoumis avait comparé le président de l'université de Lille au nazi Adolf Eichmann lorsqu'il a interdit sa conférence sur la Palestine il y a quelques jours. LFI qui continue de soutenir coûte que coûte les manifestants pro-palestiniens, notamment à Sciences Po Paris. Un jeu dangereux, dénonce la ministre de l'enseignement supérieur Sylvie Retailleau, d'autant que le blocage de Sciences Po pourrait inspirer d'autres sites universitaires. Illustration à Strasbourg, où l'université tente de déminer la crise avant qu'elle ne s'embrase. Reportage de la correspondante d'Europe 1, Tatiana Gelselman.
Colons un jour, colons toujours, mort à Israël, Palestine vivra. Dès qu'ils apparaissent sur les murs de la fac, Michel Deneken, le président de l'université, fait effacer les messages de haine envers Israël.
Il y a un acharnement sur Israël particulier. On n'a jamais dit mort à la Chine, mort à la Russie, même pas mort à la Russie. Donc les laisser, ça banalise la parole violente et c'est un cache-sexe de l'antisémitisme.
Et c'est bien là la grande crainte des universités, que le conflit amplifie les attaques envers les étudiants juifs, alors que 90% d'entre eux disent déjà être victimes de blagues antisémites et qu'un tiers cache leur appartenance religieuse par peur des répercussions.
Nous avons mis par exemple en place une hotline où on demande aux étudiants de nous faire remonter les faits, gestes, paroles dont ils sont soit victimes, soit témoins. Et il est vrai qu'on en a.
Pour autant, Michel Deneken tempère.
Notre campus n'est pas à feu et à sang. Beaucoup de nos étudiants ne se mobilisent pas pour cette cause-là parce qu'ils comprennent qu'il y a une récupération politique derrière.
Raison pour laquelle ils souhaitent continuer d'organiser des débats sur le sujet pour éduquer les jeunes et éviter toute instrumentalisation. Strasbourg, Tatiana Gelselman, Europe 1.
Alors, 8h07, comment mettre fin aux violences sexistes et sexuelles à l'hôpital? Le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, reçoit ce jour les représentants des professionnels et de santé et des internes en médecine.
Il a déjà rencontré l'infectiologue Karine Lacombe qui a déclenché une vague MeToo à l'hôpital en accusant l'urgentiste Patrick Peloux de harcèlement sexuel. Des mots, des gestes dont sont aussi victimes les femmes de ménage qui entretiennent les hôpitaux, comme le confirme ce reportage de Charles L'Huillier.
Au tout début, je pensais que l'hôpital était un lieu sain.
Aurélie a depuis déchanté. Après un job d'été de 3 mois en tant que femme de ménage dans un hôpital du sud de la France, la faute à un cadre infirmier.
T'es bonne, j'aimerais bien te faire l'amour. Vraiment un connard et un vicieux.
Un comportement qui, au fil des semaines, est allé en s'aggravant.
Il essayait de m'embrasser, il essayait de me mettre dans une pièce pour pouvoir faire des choses avec moi. J'avais 18 ans, il en avait 40.
Un ascendant dont cet homme était évidemment conscient.
J'avais besoin de travailler, j'avais besoin d'argent. Et vu qu'il est, cadre, il se sent carrément plus supérieur. Et j'ai l'impression que nous, les femmes, en fait, on est...
Pour ne rien arranger, une omerta régnait dans cet hôpital.
J'ai dit, écoutez, c'est pas normal que je me fasse dire des choses comme ça. Mais là, les collègues de l'hôpital, ils s'en foutaient, en fait. C'est pas normal, en tant que femme, de se dire, on n'est pas entendu.
Aurélie, qui, face à ce manque de soutien et l'attitude de ce supérieur, a préféré définitivement quitter l'hôpital et renoncer à sa principale vocation de l'époque, les études d'infirmière.
Charles L'Huillier, correspondant d'Europe 1 en Occitanie.
Des trombes d'eau sur le Lyonnais hier. 104 mm de pluie, c'est un mois de précipitation en à peine 24 heures.
Route inondée, éboulement, train qui déraille. Les secours étaient sur tous les fronts hier face aux pluies et à la montée des eaux. Ce train qui a déraillé, alors pas de blessés, mais 200 passagers qui ont dû attendre un autre train pour pouvoir rallier la gare de Lyon-Perrache. La circulation des trains sur cette portion entre Givors et Lyon est interrompue jusqu'à mercredi.
Allez, on espère une météo plus clémente dans 15 jours pour le festival de Cannes, dont on connaît désormais la composition du jury.
Oui, jury présidé par l'américaine Greta Gerwig, la réalisatrice de Barbie. Bonjour Marie Jiquel.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Des stars françaises sont au casting cette année.
Oui, le festival qui se tient du 14 au 25 mai choisit 4 hommes et 4 femmes pour le jury de Greta Gerwig, dont Omar Sy, l'un des acteurs français les plus connus d'Hollywood, le Arsène Lupin de la série Netflix qui avait cartonné dans le monde entier, mais c'est aussi l'une des personnalités préférées des Français. À ses côtés, on retrouve aussi l'actrice Eva Green, éblouissante Milady dans Les Trois Mousquetaires de cette année, mais elle est aussi connue à Hollywood pour son rôle de méchante dans les James Bond. Voilà, on sent en fait que le festival, taxé d'être un peu trop américanisé, a choisi choisi des stars françaises, mais connues à Hollywood. Fanny, dans ce jury également, l'actrice amérindienne Lily Gladstone, qui avait crevé l'écran l'année dernière à Cannes dans Killers of the Flower Moon. Et puis s'ajoute à cette liste d'autres habitués du Festival de Cannes, comme le réalisateur japonais Kore-eda. Des noms qui rejoignent un tapis rouge impressionnant cette année. On pourra y voir le créateur de Star Wars, George Lucas, qui recevra une palme d'or d'honneur. Et puis le parrain, Francis Ford Coppola, en quête d'une troisième palme pour son film Mégalopolis.
Merci beaucoup Marie Jiquel. Omar Sy qui vient d'ailleurs d'inaugurer un cinéma qui porte son nom à Trappes, qui sort un livre aujourd'hui, c'est la totale en ce moment pour Omar Sy.
Quel casting ce jury, dis donc.
Un jury incroyable.
Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant sur Europe 1, l'ancien Premier ministre Manuel Valls face à Sonia Mabrouk.
7h, 9h,
Europe 1 matin.
Maman m'a appris à toujours aller de l'avant, même dans les moments difficiles. Mais quand elle nous a quittés, j'étais bouleversé, je savais pas quoi faire, ni par où commencer. Alors j'ai appelé le 32 urgence décès. Un conseiller PFG était là pour moi et il s'est occupé de tout.
En cas de décès, appelez gratuitement le 32. Une équipe urgence décès PFG vous répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour une prise en charge partout en France. Urgence décès 32, un service PFG.
La Poste. Index. Mot masculin qui désigne le deuxième doigt de la main, doigt situé entre le pouce et le majeur, qui est souvent très utile pour indiquer le bon chemin à quelqu'un ou à son courrier. Lorsque l'on change de domicile.
Alors, à l'aide de votre index, cliquez sur laposte.fr et faites suivre facilement et rapidement vos courriers vers votre nouvelle adresse. Avec les bons plans logement de La Poste, la réexpédition du courrier pendant 6 mois est au prix de 47 euros. Voir conditions de l'offre sur laposte.fr.
Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en 2 matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid demain à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
La Meute, c'est le nouveau thriller d'Olivier Ball. Des notables enterrés vivants, des réfugiés assassinés. Le cauchemar a un nom, La Meute. Un groupuscule terrifiant qui pourrait bien faire vaciller la société. Pour l'enquêtrice Sofia Giordano, une plongée glaçante dans la mécanique du fanatisme. La Meute d'Olivier Ball, un livre XO.
Europe 1.
La grande interview Europe 1 CNews arrive dans un instant.
En 2024, les enjeux pour l'économie du sport en France sont nombreux. Comment cette année sportive servira-t-elle de vitrine aux entreprises tricolores? La réponse, c'est demain, dès 21h sur Europe 1 dans La France Bouge, présenté par Elisabeth Assayag avec Alain Di Crescenzo, le président de CCI France, en partenariat avec la CCI Bayonne, Pays Basque.
Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite, oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer, oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie. Avec AG2R La Mondiale, constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
7h, 9h,
Europe 1 Matin.
Présence, ancien Premier ministre, avait aussi été ministre de l'Intérieur dans l'actualité de ce jour, alors que le Premier ministre Gabriel Attal reçoit en fin de journée les représentants des partis. Sur le sujet de la violence des mineurs, on a appris qu'un mineur afghan de 15 ans est en garde à vue avec sa mère d'ailleurs, soupçonné d'avoir porté des coups de couteau mortels à un adolescent du même âge à Châteauroux. Le mineur afghan est en situation régulière. Manuel Valls, il avait déjà été interpellé pour vol aggravé avec violence, mais sans passer par la casse prison. La question que l'on se pose après tous ces faits de société, c'est quel sursaut? Est-ce que c'est la levée de l'excuse de minorité? Est-ce qu'il veut revoir de fond en comble la justice des mineurs?
Sans doute. D'abord, c'est effrayant. Une nouvelle fois, un mort, un coup de couteau, cette violence qui se déchaîne, puisque les homicides et les tentatives d'homicide augmentent depuis quelques années. Donc ce ne sont pas des faits divers, ce sont en effet des faits de société qui disent beaucoup sur la violence. Donc cela pose des questions sur la manière dont il faut agir, évidemment sur l'immigration, évidemment sur les mineurs non accompagnés, c'est à la fois des réponses françaises et européennes, et puis aussi sur une réforme profonde de la réforme des mineurs, en s'attaquant à la question de l'excuse de l'âge, sans doute en inversant la preuve de celle-ci, puisque un mineur qui tue à 15 ans mérite évidemment une réponse extrêmement sévère, avec tout l'accompagnement ensuite, en prison et pour sa réinsertion, on peut le penser ainsi, mais la société demande un sursaut et une réponse très puissante de l'État, de la justice. C'est légitime de la part de nos compatriotes qui sont évidemment inquiets.
Légitime, et d'autant qu'on a déjà réformé justement cette justice des mineurs, mais en dissociant deux phases, en deux étapes entre eh bien, le moment où il y a le fait et puis la condamnation. Est-ce qu'on n'a pas aggravé les choses finalement en rendant la justice encore plus tardivement ?
En tout cas, moi je crois qu'il faut agir le plus vite possible avant même les faits, quand il y a des faits de violence, des trafics de drogue, à l'école, à travers les centres éducatifs fermés, à travers une réponse pénale évidemment toujours adaptée quand il s'agit des mineurs.
Lesquelles ?
Soit claire, sévère, dure, parce qu'on ne peut pas accepter cette violence. Moi j'ai été touché, bouleversé, comme chacun, parce que nous avons connu, c'était dans le département où j'ai été élu de nombreuses années, dans l'Essonne, les faits de Viry-Châtillon. Quand j'étais élu il y a plus de 20 ans, il y avait déjà des phénomènes d'affrontements de bandes, il y avait des morts. Je me rappelle que Évry, ma ville, était synonyme de ces affrontements. Nous avions remis de l'ordre aussi, avec police municipale forte, avec une coopération avec la justice, avec un travail avec les proviseurs et les principaux de collège. Nous savons que c'est une chaîne de réponses. Mais face à des faits aussi graves, commis en l'occurrence par des mineurs et aussi pour ce qui concerne ce cas-là, par un mineur étranger, sans généraliser, mais enfin, il faut constater les faits, les réponses, elles doivent être à chaque fois, sur tous ces sujets, extrêmement nettes.
En situation régulière, je le précise, sur notre sol, après les images du blocus de Sciences Po Paris, Manuel Valls, de nombreux responsables politiques ont demandé au gouvernement de réagir suite à l'accord qui a été conclu avec la direction de l'établissement, qualifié de soumission par certains. Hier, lors du grand rendez-vous Europe 1 CNews des Échos, François-Xavier Bellamy demande de stopper les financements publics de Sciences Po. D'autres demandent la démission de la direction temporaire, elle est par intérim. Il faut aller dans cette direction ?
Sciences Po est une grande école prestigieuse.
Toujours ? C'est toujours le cas ?
Élus. Vous pouvez vous poser cette question, mais en tout cas, elle forme nos élites et depuis très, très longtemps. Émile Boutny qui a donné le nom à des grands amphithéâtres de Sciences Po qu'on a rebaptisé, ça doit être l'amphithéâtre Gaza maintenant, voulait refaire des hommes et élever leur pensée après la défaite de 1870. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui vient de très loin. Donc la direction s'est engagée à un débat qui porte sur les revendications de ces étudiants qui ont bloqué l'Institut et notamment sur la suspension du partenariat de l'école, j'ouvre les guillemets, avec les universités et les organisations soutenant l'État d'Israël. Donc on va organiser un débat sur la légitimité d'expression de haine des Juifs et d'Israël. On va se plier aux exigences de l'extrême gauche de la France insoumise et de fait de leurs alliés islamistes. Et on va plier devant une minorité d'étudiants violentes qui terrorisent la majorité
et, comment vous appelez
et qui bloque Sciences Po.
Comment vous
qualifiez ? J'appelle ça de la lâcheté, j'appelle ça une reddition face à l'islamo-gauchisme, et j'appelle ça de la soumission, parce que cela rappelle en effet le livre de Michel Houellebecq sur un roman, mais qui anticipait ce que pouvait dire la soumission face à l'islamisme. C'est un Munich de la pensée, pardon de cette expression.
Mais Munich de la pensée tout.
Oui.
Parce c'est que ce dont se rend responsable et coupable, selon vous, la direction de Sciences Po Paris.
Évidemment, parce qu'il y a ce relativisme, cette peur face au camp du bien, à des étudiants, sans parler de la manipulation, évidemment, qu'il y a derrière, de militants qui viennent de l'extérieur, avec de la violence, y compris vis-à-vis de vos propres confrères de cette chaîne ou de BFM, la peur d'être dénoncé par le camp donc du bien face au mal.
Et parlez-en de la manipulation, Manuel Valls. Rima Hassan, il y a quelques instants, sur France 2, dit qu'elle n'est pas du tout pour la disparition de l'État d'Israël et que le slogan « From the river to the sea » n'est pas du tout ce que l'on croit. Que pensez-vous d'une telle défense aujourd'hui ?
Ce qui m'inquiète de la part de cette candidate et de la France insoumise, c'est l'utilisation de mots comme celui du génocide que serait en train d'opérer Israël. Il y a une guerre, il y a des morts, c'est évidemment terrible, mais on utilise des mots qu'on hurle ensuite dans des slogans devant Sciences Po ou dans d'autres universités, des mots qui... Je reviens de 3 jours du Congo, de la RDC, de la République démocratique du Congo. Au Rwanda, il y a eu un génocide. Mm-hmm. On sait ce que ça veut dire. Au Congo, à l'est, dans la région du Kivu, il y a eu des millions de morts, des nettoyages ethniques, des viols effrayants, des formes de génocide. C'est un débat qui a lieu là-bas. Et là, on utilise ce mot-là, hurlé par des étudiants, pas uniquement à Sciences Po. Il y a des universités, il y a eu des incidents à Strasbourg, à la Sorbonne Nouvelle. Les étudiants juifs, nos compatriotes français, des jeunes français, ne peuvent plus aller étudier, par exemple, j'entends, à l'université de Toulouse.
Dites-nous, de quoi se rendent coupables, selon vous, les étudiants? Parce que, est-ce que vous considérez qu'il y a une forme de légitimité à condamner ce qui se passe à Gaza? Et dans ce cas-là, ce sont des étudiants pro-palestiniens. Ou est-ce que vous estimez qu'ils se rendent coupables d'autre chose et qu'ils sont pro-Hamas? Là, ce serait autre chose.
Oui, mais moi, évidemment...
En fait, la différence...
On cherche toujours, oui, bien sûr, on cherche toujours cette excuse à dire. Donc tout
c'est
ça.
Une excuse ou une réalité?
Non, c'est, il y a des étudiants qui se mobilisent pour une cause, celle des Palestiniens. Je vois que d'ailleurs, on ne se mobilise pas pour les musulmans de l'Inde, pour ceux de la Chine, pour la Birmanie, la Syrie.
Donc, c'est contre Israël pour vous?
Il y a une cause, c'est Israël, évidemment. Écoutez, faut dire les choses comme elles sont. D'ailleurs, ce mouvement, il nous vient des États-Unis. C'est les universités de Columbia prestigieuses aussi. Columbia, Harvard, Princeton, qui sont gagnées par le même mouvement.
Avec des centaines d'arrestations. Hein.
Qui forment, mais avec des slogans du type « retourner en Pologne » à des Américains juifs, originaires des pays où il y a eu l'accomplissement de la Shoah. Israël représente pour l'idéologie wokiste complice de l'islamisme l'Occident, l'homme blanc coupable de la colonisation, de l'apartheid et du génocide. Et le génocide est utilisé comme mot pour disqualifier et nazifier Israël.
Donc c'est une inversion totale de l'histoire.
C'est une inversion totale. Donc c'est une affaire très grave. Alors, et qui touche Sciences Po, qui touche nos universités et avec... non seulement la complicité, la lâcheté de la direction, mais aussi avec une absence d'autorité absolue de la ministre de l'enseignement supérieur qui a salué cet accord.
Donc, alors que moi, le Premier ministre affirme qu'il ne transigera pas. Mais qu'est-ce que vous comprenez de ces deux réactions alors?
Moi je pense qu'il faut une reprise en main. Il faut une reprise en main. Il y a une partie
du monde... C'est la reprise en main de qui? De la direction, du monde universitaire,
enfin... Exactement. Parce que c'est...
Sous tutelle, alors, une tutelle.
Sinon, c'est le relativisme qui l'emporte, y compris le relativisme de la ministre, qui est une universitaire prestigieuse.
Ça passe par quoi, monsieur le Premier ministre? Par une tutelle?
Ça passe par une reprise en main.
Mais elle passe par quoi, cette reprise en main?
Écoutez, il faut siffler la fin de la
réparation.
Donc, c'est une tutelle. Donc, c'est un questionnement sur les subventions publiques qui doivent représenter, je n'ai pas les chiffres en tête, mais 40% des plus de 200 millions du budget de Sciences Po, et par le renvoi, comme ça a été fait dans les universités américaines, des étudiants agitateurs. Enfin, il y a un moment où il faut dire stop, ça suffit, ce désordre n'est pas possible parce qu'il touche, écoutez, Sciences Po, d'une certaine manière, c'est la France. C'est l'université, une des plus prestigieuses de notre pays. Donc on touche à l'essentiel, et donc il ne faut pas sous-estimer ce qui
Daniel
se passe.
Valls, il y a ce qui se passe chez nous, et il y a ce qui se passe aussi sur le terrain de la guerre, qui se poursuit à Gaza, alors que la pression monte pour faire cesser les combats. Une délégation d'ailleurs égyptienne tente de discuter avec l'État hébreu pour obtenir un cessez-le-feu et un plan de libération des otages. Il y a 5 mois, vous disiez, au grand rendez-vous, un cessez-le-feu, je vous cite, reviendrait à donner la main au Hamas. Plusieurs mois plus tard, il y a beaucoup de morts, une situation compliquée, Israël isolé sur la scène diplomatique internationale. Est-ce que vous dites malgré tout la même chose?
Oui, bien sûr. Alors, on parlait d'un cessez-le-feu définitif. Là, il s'agit de cesser le feu, si c'est possible, de quelques semaines, de quelques mois, comme cela a déjà été le cas, au mois de décembre, pour sauver la vie d'otages, dont on ne connaît pas la situation. Vous le savez parfaitement, les informations remontent sur le fait que...
Mais est-ce qu'il faut un cessez-le-feu désormais?
S'il y a un cessez-le-feu provisoire pour sauver la vie de 30-40 otages... Écoutez,
mais vous n'êtes pas pour un cessez-le-feu sur aussi Gaza pour épargner la population civile?
Il y a une ligne de front contre l'islamisme. Et sur cette ligne de front, Israël est en première ligne. Tout ce qui donnerait le sentiment d'avantager le Hamas après le pogrom à vocation génocidaire du 7 octobre serait un acte de faiblesse.
Dans ce cas-là, la guerre ne s'arrêtera jamais.
Je ne suis pas dirigeant israélien. Je me situe en fonction des intérêts stratégiques et de mon pays et de l'Occident face à l'islamisme. Après Al-Qaïda, après l'État islamique, il y a Hamas avec le soutien derrière de l'Iran. Donc, il faut en finir avec le Hamas. Après, sauver les otages, oui, mais dans quelle situation sont-ils? Donc, il faut être très clair dans le soutien à Israël. De ce point de vue-là, je ne change pas, malgré les horreurs de la guerre. Mais cette population palestinienne, elle est utilisée comme bouclier par les islamistes, par les terroristes du Hamas. La guerre, elle peut s'arrêter, hein. Il suffit que le Hamas délivre tous les otages, se rendent ou partent de la zone de Gaza. Ça serait un soulagement d'abord pour les populations civiles palestiniennes.
J'en viens au sujet qui devrait être aussi au cœur de la campagne des Européennes, l'Europe. Avant-hier, le président Emmanuel Macron s'est dit prêt à ouvrir le débat d'une défense européenne comprenant l'arme nucléaire. Ça a suscité beaucoup de réactions, Manuel Valls. Hier, François-Xavier Bellamy s'en est ému. Il a dénoncé une telle idée d'une mutualisation qui touche au nerf de notre souveraineté nationale. Vous êtes d'accord ?
Non, avec François-Xavier Bellamy.
Donc oui, avec le président de la République.
Oui, je veux dire pourquoi. C'est un sujet délicat, sensible, sérieux. Comme Premier ministre, j'ai été dans la boucle de la dissuasion nucléaire. Nous en parlons peu, mais avec le président de la République, le ministre de la Défense, le chef d'État-major, nous sommes dans cette boucle. Le président de la République n'a pas parlé de mutualisation, ni de partage, ni d'abandon de la souveraineté.
Une défense européenne comprenant l'arme nucléaire, beaucoup l'ont entendu comme un partage de la dissuasion.
Non, ce n'est pas cela. Nous sommes
Qu'est-ce qui
vous
permet de l'affirmer ?
Parce que j'ai lu ce qu'a dit le président de la République, et en plus, c'est en ligne avec ce qu'il avait dit déjà en 2020. Le plus grand danger, vous avez raison de parler de l'Europe, c'est la passivité des Européens par rapport au changement que nous sommes en train de connaître. Ligne de front au Proche-Orient, je viens de l'évoquer, ligne de front en Europe, face à la Russie. Donc il faut un réveil des Européens, et les missiles et le nucléaire russe nous menacent. Donc le président de la République fait, vous savez que je peux être critique sur le président de la République, sur la diplomatie vis-à-vis d'Israël, ou sur la manière dont aujourd'hui il conduit les affaires. Mais là, on touche à l'essentiel. Donc il a fait un certain nombre de propositions qui visent un ensemble de défense pour l'Europe, solaire, missiles de longue portée. Il y a l'idée des Allemands de ce bouclier antimissile, mais qui pose évidemment beaucoup de sujets. Et sur le fait que, vu la menace des Russes, le nucléaire français, l'arme de dissuasion nucléaire, peut être liée aussi, c'est un débat, aux intérêts stratégiques de l'Europe.
Mais Manuel Valls, d'habitude, l'arme nucléaire est liée à une souveraineté nationale. C'est une sanctuarisation d'un territoire.
Oui, mais nous avons aujourd'hui, nous le voyons bien, à la fois dans le cas de l'Union européenne, de l'Alliance Atlantique, avec nos amis britanniques qui ont aussi l'arme nucléaire, avec les évolutions que nous connaissons, les intérêts stratégiques de la France. Il ne s'agit pas de demander aux Slovènes, aux Danois, aux Italiens d'appuyer le bouton rouge avec nous. Soyons sérieux, c'est des sujets, évidemment, comme vous l'avez présenté, particulièrement délicats. Mais on ne rigole plus là. C'est-à-dire que quand on parle de risque pour l'Europe, de risques pour nos intérêts stratégiques, de guerre.
Il y a un parapluie américain.
On ne se paye pas de mots. Oui, mais j'étais il y a quelques mois à Kiev. Il y avait deux choses qui me frappaient. Un, le fait que la guerre était longue, que les Ukrainiens demandaient notre soutien financier et militaire, nous avons trop tardé, et l'élection potentielle possible de Trump dans quelques mois aux États-Unis. Si nous ne nous préparons pas à nous défendre, eh bien, notre faiblesse, parfois notre lâcheté passée, ouvre les portes à tous ceux qui combattent nos intérêts stratégiques, nos valeurs démocratiques. Et vous savez, moi je suis frappé par le fait que Poutine, l'Iran qui soutient la Russie avec ses drones, Poutine qui reçoit le Hamas, ils nous font d'une manière ou d'une autre une guerre directe par les réseaux de communication, par hybride. Donc nous devons réagir. Et je pense que le président de la République ouvre un débat sur la manière dont nous, Européens et évidemment Français, avec nos propres responsabilités historiques et politiques et stratégiques, nous devons nous défendre.
Il est donc au cœur de la campagne des Européennes, ce débat. Merci Manuel Valls.
Merci à vous.
Grande interview, je vous dis à bientôt.
Merci Sonia Mabrouk, merci Manuel Valls. Vos signatures Europe 1 du lundi, à commencer par Philippe Val, dans un instant sur Europe 1.
Europe 1.
Rejoignez-nous sur l'antenne d'Europe 1, c'est la famille, on est tous ensemble.
Je vous écoute hein, tous les jours, c'est de la bonne humeur, je ris en voiture en vous écoutant quand je rentre du travail et j'ai vraiment passé un bon moment.
On vous embrasse Valérie, faites
bravo.
Oh, ça part bien les amis.
Qu'est-ce que c'est la chanson du matinalier?
Vous connaissez pas la chanson du matinalier?
Non. L'actu c'est ma meilleure copine, elle me fait rire quand elle me déprime. Vous connaissez pas celle-là?
Non, je connaissais pas. Non.
C'est extrêmement important que vous puissiez nous dire ce que vous avez sur le cœur.
Je vous écoute toujours avec beaucoup d'attention et je vous remercie de votre aide.
Europe 1.
Les Français ont envie d'avoir des images positives.
Avec vous.
Bonjour, je suis Laurence de Carglass. On fait quoi en cas d'impact sur son pare-brise? On appelle Carglass au 3044. Et si on a deux impacts, c'est toujours Carglass au 3044. C'est simple. Une urgence sur votre pare-brise? Allô Carglass au 3044. Et pour prendre rendez-vous rapidement chez Carglass, c'est le 3044. Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
Depuis 3 ans, plus de 1300 salariés d'Amazon ont bénéficié de formations diplômantes reconnues par l'État. Anna a suivi une formation de technicien de maintenance. En seulement 2 ans, elle est passée de préparatrice de commande à technicienne diplômée. Désormais, elle porte une combinaison et un casque de chantier. Et sa fille trouve qu'elle ressemble à une super-héroïne. Chez Amazon, nous sommes résolus à favoriser les formations diplômantes pour les salariés des sites logistiques, sous conditions d'éligibilité.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
7h, 9h.
Europe 1 matin.
8h31 sur Europe 1. Philippe Val, dans un instant, comme chaque lundi, juste après le résumé de l'actualité, c'est le journal permanent. Christophe Lamarre.
Il faut sans doute revoir de fond en comble la justice des mineurs. Réaction de Manuel Valls au drame de Châteauroux ce matin sur Europe 1 et CNews. L'ancien Premier ministre estime qu'il faut s'attaquer à l'excuse de minorité. Un mineur afghan de 15 ans ainsi que sa mère toujours en garde à vue dans cette affaire. L'adolescent soupçonné d'avoir mortellement poignardé un jeune de son âge samedi soir. Le suspect était par ailleurs sous le coup d'une procédure judiciaire dans une autre enquête pour vol aggravé avec violence. La vague MeToo à l'hôpital. Le ministre délégué à la Santé convoque aujourd'hui une réunion sur les violences sexistes et sexuelles en milieu hospitalier. Toute l'échelle de la hiérarchie est concernée, a estimé ce matin sur Europe 1 le médecin généraliste Valérie Oslander. La composition du jury du Festival de Cannes, 4 hommes dont Omar Sy, 4 femmes parmi lesquelles Eva Green, toutes et tous placées sous la direction de la présidente de ce 77e festival dont le nom a été dévoilé en fin d'année dernière, la réalisatrice Greta Gerwig.
Merci Christophe Lamarre. Place au temps, Anissa Dadi. On a une majorité de nuages dans le ciel aujourd'hui.
Oui, un ciel très nuageux, surtout entre les Pyrénées et la Bourgogne, en passant par le Languedoc, l'Auvergne et la vallée du Rhône. Dans toutes ces régions, nous avons un nouvel épisode pluvieux tout au long de la journée, avec un épisode cévenol qui va faiblir du côté de l'Auvergne, mais qui reste très actif encore sur l'Hérault avec de fortes pluies. Les températures, elles, sont comprises entre 12 et 26 degrés, 12 à Rodez, 14 à Brest et au Puy-en-Velay, 16 degrés à La Rochelle et La Roche-sur-Yon, 17 à Nantes et Limoges, 18 degrés à Lyon, 19 à Paris et Lille, 22 degrés à Nice et 26 pour Ajaccio. Ailleurs, entre le nord et l'ouest du pays, sur un grand quart nord-ouest, il y aura de belles éclaircies tout au long de la journée.
Merci beaucoup Anissa Dadi. Il est 8h33.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Il est l'heure de vos signatures Europe 1 du lundi. Dans un quart d'heure, vous retrouverez le zapping politique signé Dimitri Vernet. Emmanuel Ducrot nous parlera des Verts allemands qui, il y a quelques années, falsifiaient des rapports sur le nucléaire dans le but unique de fermer des centrales. On a vu les conséquences que ça a pu avoir en Allemagne. La revue de presse d'Europe 1 également arrive avec vous, Olivier Delagarde. Bonjour Olivier.
Et bonjour à tous.
Qu'est-ce qu'on lit dans les journaux ce matin, Olivier?
Vous avez aimé l'accord à la SNCF, Dimitri?
vous allez adorer celui avec les contrôleurs aériens. Je vous parlerai aussi de Sciences Po, de Femmes Corbeaux et de musique qui fait mal aux oreilles.
Oh, de musique qui fait mal aux oreilles, voyons voir ça. De qui allez-vous dire du mal ce matin? On voit ça dans 5 minutes, à tout de suite Olivier. Mais d'abord, comme chaque lundi, quel plaisir de vous retrouver Philippe Val. Bonjour Philippe.
Bonjour Dimitri et bonjour à tous.
Alors on parlait de Sciences Po à l'instant. À ce sujet, je vous sens très inquiet ce matin Philippe.
Ah oui, j'ai très peur du prochain classement PISA qui note les pays pour la qualité de l'enseignement. J'ai l'impression qu'en France, l'analphabétisme a gagné au point qu'on trouve des gens qui ne savent pas lire alors que leurs études leur ont permis de devenir dirigeants politiques.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire, Philippe ?
Quand je regarde l'annonce officielle, je lis que le 9 juin 2024 ont lieu les élections européennes, c'est-à-dire qui concernent l'avenir d'une union de 27 pays démocratiques menacés par l'entrisme islamiste, opportunément alliés aux dictatures chinoises et russes, tous fantasmant sur la disparition de notre civilisation. Et qu'est-ce que j'entends ? Le PS veut faire de ces élections un référendum anti-Macron. Le PR veut gagner pour engager une motion de censure. Et le RN veut gagner pour demander une dissolution de l'Assemblée nationale. La guerre a beau gronder à nos portes, on s'en fout. On continue à s'écharper sur le camembert au lait cru.
Alors dans votre liste, vous avez oublié la France insoumise, Philippe.
Pas du tout. Je l'ai gardé pour la bonne bouche. Avec eux, parce que eux, ce sont les champions. Au moins, leur programme pour l'Europe est sans ambiguïté. Ils sont pour une Europe qui va de la rivière à la mer. Pour cela, il faut accélérer les échanges Erasmus entre Ramallah et Téhéran, remplacer la Commission européenne par le Hezbollah, creuser un tunnel sous la mer pour relier la Havane et la bande de Gaza, ouvrir la procédure d'entrée du Venezuela, de l'Iran, de la Corée du Nord et de l'Afghanistan dans l'Union européenne, obtenir la participation de Daesh au prochain concours de l'Eurovision et évidemment chasser tous les Juifs du Moyen-Orient afin qu'Israël devienne un émirat comme les autres.
Bon, vous exagérez un petit peu, Philippe, quand même.
Oui, j'exagère, mais pas assez. En réalité, il faut reconnaître que la France insoumise est le seul parti qui porte un projet crédible pour l'Europe. En faisant campagne à Sciences Po, ils font en soft ce que Pol Pot faisait en hard. Détruire la fabrique des élites anti-révolutionnaires. Et avec succès. Sciences Po est foutu. Si je m'en tiens à ce que je lis dans les journaux, je ne suis pas juif, mais jamais je n'accepterai, par exemple, que mon fils ou qui que ce soit que j'aime fasse ses études dans une université où les juifs ne sont pas en sécurité. Or, il y a 15 000 élèves à Sciences Po, et il n'était que 500 manifestants dans la rue Saint-Guillaume. Qu'attendent les 14 500 autres pour ouvrir leur gueule ? Demain, ils se présenteront pour un boulot avec Sciences Po Paris sur leur CV, et qui aura envie d'embaucher un crétin à keffier qui a brandi ses mains teintes en rouge dans une manif rue Saint-Guillaume pour reproduire la photo du Palestinien qui lève ses mains rouges de sang des deux Juifs qu'il vient d'assassiner?
Qu'est-ce qu'on peut faire, Philippe, contre cela?
Il est minuit moins le quart. Et les candidats doivent apprendre à lire. Il s'agit d'élections européennes et on doit voter pour un programme européen. Celui de LFI est clair. Bon, ok, ils sont pour une France islamisée et antisémite. Comme à Sciences Po, où ils sont 500 qui braillent devant les caméras du monde entier contre 14 500 invisibles qui se taisent, nous sommes une écrasante majorité invisible contre une minorité qui fait la une des journaux. Laisserons-nous la France de Lucie Aubrac et de Jean Moulin se soumettre à la France insoumise de Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon ? Ce qui est inquiétant, ce n'est pas leur défaite électorale qui est inéluctable, c'est leur victoire médiatique et leur triomphe dans les réseaux sociopathes, lesquels dessinent déjà impunément la carte d'une Europe sans juifs qui va de la rivière à la mer.
Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup, Philippe. À lundi prochain. Dans un instant, restez avec nous. Pascal Pro nous rejoindra. On verra le sommaire de Pascal Pro et vous tout à l'heure de 11h à 13h. Et ce sera juste après la revue de presse d'Europe 1. Olivier Delagarde, 8h38.
7h, 9h.
Europe 1 matin.
Retrouvez du lundi au vendredi à 6h40 sur Europe 1 l'invité éco avec Banque Populaire, engagé aux côtés de ceux qui entreprennent.
Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid demain à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde ? DS Automobile présente le surclassement en DS3 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux ? En ce moment, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS3 Crossback E-Tense 100% électrique d'occasion à partir de 199€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Europe 1 matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
À partir de ce soir, ne manquez pas, c'est le nouveau rendez-vous sur Europe 1, la nouvelle formule d'Europe 1 soir avec aux commandes Pierre de Villeneuve.
Oui, de 19h à 21h, tous les soirs, 2h d'actualité pour préciser, décrypter et débattre de l'information de la journée avec des invités et les voix d'Europe 1. Europe 1 soir, nouvelle formule, c'est de 19h à 21h, présenté par Pierre de Villeneuve. Et c'est de ce soir sur Europe 1.
Voilà, et les auditeurs d'Europe 1 Matin seront vraiment pas perdus avec Pierre de Villeneuve et Europe 1 Soir. C'est la réplique 12 heures plus tard. Tous les 12 heures, une grande tranche de 2 heures d'information sur Europe 1. Mais avant cela, la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence avec cet accord qui était censé rester secret.
Eh bien, c'est loupé, Dimitri, parce qu'il fait les gros titres à la une des Échos ce matin. De quoi s'agit-il ? De l'accord obtenu la semaine dernière par les contrôleurs aériens pour qu'ils lèvent leur menace de grève, au moins jusqu'après les JO. Mais pourquoi cet accord devait-il rester secret ? Eh bien parce qu'au regard des avantages obtenus, les syndicats de la SNCF font vraiment figure de petits joueurs. Concernant la fin de leur carrière, les contrôleurs aériens ont obtenu tout ce qu'ils voulaient, à savoir les plus hauts indices de la fonction publique, sachant qu'ils partent déjà à la retraite à 59 ans. Sur leurs revenus maintenant, la hausse moyenne de rémunération obtenue serait de l'ordre de 1 500 € par mois en moyenne. Et ce n'est pas tout, révèle Bruno Trévidic. Le syndicat des contrôleurs aériens a aussi obtenu 18 jours de récupération supplémentaire. Bref, le beurre, l'argent du beurre et un bisou de la crémière. Comme l'explique un contrôleur, un rien cynique, « Je suis à 32 heures par semaine. » Avec les jours de récupération supplémentaires, nous allons donc travailler moins pour gagner plus. À titre individuel, je ne vais pas m'en plaindre, mais cela ne rendra pas la navigation aérienne plus efficace.
Sans doute.
Voilà en tout cas, ces avantages sont à faire pâlir d'envie la plupart des agents de la fonction publique, résume les Échos. Mmh. C'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle le ministère des Transports avait demandé la plus grande discrétion. C'est raté.
Alors, autre accord salué par le gouvernement, celui obtenu par la direction de Sciences Po.
Scandaleux, c'est le titre de l'éditorial d'Étienne de Montetti à la une du Figaro, qui revient donc sur cet accord passé avec l'assentiment du gouvernement pour obtenir la levée des blocages de l'extrême gauche. À la une de l'Opinion, Rémi Godeau commente. Débordé par le conflit israélo-palestinien, la direction n'est plus capable de maîtriser une école noyautée par la gauche radicale. Des activismes qui marient wokisme et islamisme jusqu'aux frontières de l'antisémitisme. « Je ne reconnais plus l'école que j'ai intégrée il y a 6 ans », témoigne ainsi un étudiant dans le Figaro. « Pour moi qui venais d'un petit lycée du Finistère, Sciences Po c'était un investissement intellectuel et financier. Aujourd'hui on doit se taire face à une minorité bruyante. » Cette minorité a donc obtenu la levée des sanctions pour ses militants et la tenue d'une sorte d'AG où les activistes pourront à loisir contester les partenariats de l'école avec des universités ou des organisations soutenant l'État d'Israël. Sans attendre, révèle Caroline Beyer, la famille de l'économiste Jean-Paul Fitoussi a annoncé qu'elle suspendait immédiatement le partenariat entre sa fondation et Sciences Po, ou plutôt Sciences Po Grom, comme l'appelle désormais CAC, le caricaturiste de l'Opinion.
Alors on passe maintenant à un dossier, Olivier Delagarde, que ne liront probablement pas les militants de Sciences Po.
Et pourtant le sujet devrait mobiliser tous les défenseurs des droits humains en général, et des femmes en particulier, dossier à la une du Parisien aujourd'hui en France sur la répression féroce qui redouble en Iran. Dans ce pays totalement fermé aux journalistes occidentaux, le régime fait régner la terreur. Leur cible, toutes les femmes qui ne portent pas ou mal le voile. Un rappeur célèbre vient d'être condamné à mort. Et face à la jeunesse iranienne qui résiste, il y a des silences minables, écrit Nicolas Charbonneau dans son éditorial. On aurait aimé entendre les intellectuels, les néo-féministes, les artistes, les étudiants d'ordinaire toujours prompts à s'indigner, soutenir ces iraniennes qui ne veulent pas vivre comme des femmes corbeaux. Mais c'est silence radio. Mais on va terminer ce matin avec une femme qui n'a rien d'un corbeau, ce serait plutôt un oiseau multicolore et chapeauté. Il s'agit de d'Amélie Nothomb. C'est le Parisien qui l'interroge en compagnie de l'un de ses musiciens préférés. Parce qu'Amélie Nothomb écoute donc de la musique. Enfin, de la musique. Préparez-vous à de la stupeur et des tremblements. Du heavy metal, le groupe s'appelle Tool. Amélie Nothomb, avec ses chapeaux ronds, en est fan. Ils vivent dans le Colorado, ils tirent à vue sur les journalistes qui s'approchent. C'est mon fantasme, raconte-t-elle à Éric Bureau, l'écrivaine qui explique qu'elle est même allée les voir au Hellfest, la grande messe annuelle. C'est à côté de Clisson, à côté de Nantes, cher à Pascal Pro qui vient de rentrer en studio. Et Amélie Nothomb y dort même au camping.
Bah oui,
l'institution. Alors, vous laissez imaginer la scène. Ouais. Il y a quelques jours, Pascal Pro, ici même, nous disait qu'il n'avait jamais dormi dans un camping.
Alors là, c'est le camping de l'extrême sud.
Mais si votre voisine de tente est Amélie Nothomb, Pascal, et que c'est au Hellfest, est-ce que ça va changer votre point de vue?
C'est génial, le Hellfest. Ouais. C'est effectivement à Clisson et ça se passe
alors
toujours
là,
très bien.
Vous me soufflez,
non,
Pascal.
Non, mais moi, je ne suis pas un fan de cette musique, mais c'est génial parce qu'il n'y a jamais un souci.
Ah, ça, c'est
vrai. Sont des fans absolus. Et ce qui est drôle, c'est que ce sont des gens qui, toute l'année, parfois, sont cadres supérieurs dans des entreprises et puis qui partent pendant 8 jours. Et
ils sont quand même
musique.
Très malheureux, ces gens, dans la vie, quoi.
Mais non, c'est formidable. Mais non, je connais deux personnes. Oui. Et c'est surprenant. Mais en même temps, je trouve que c'est vivifiant. Ils ont gardé une sorte d'âme de jeunesse.
C'est vivifiant, oui.
Et je trouve ces gens formidables très souvent parce que, attention, c'est du métal de chez métal. Hein. C'est pas la variété française. Hein.
Ah oui. C'est de l'acier.
Mais les gens qui adorent
si
ça.
Si je peux me permettre, c'est très raffiné comme métal.
Ah bah,
il y a
oui,
beaucoup plus de raffiné.
Mais les gens qui en parlent, ils en parlent avec des trémolos dans la voix. Oui. C'est-à-dire que chaque année, c'est leur parenthèse à enchanter, le Hellfest. Je vous assure, et il n'y a jamais un souci. Jamais un souci depuis
bientôt,
des années.
C'est bientôt, c'est fin juin. Tiens, il faudra inviter leurs organisateurs, dans Pascal Faure.
Oui,
dans une autre maison, j'ai invité régulièrement quelqu'un qui venait, qui travaillait avec nous et qui en parlait. C'était formidable comme elle en parlait. Vraiment. Parce que ces gens qui ont généralement 40, 45 ans, hein, c'est pas des genoux, hein, ça date des années 80, 90, le métal.
Eh ben, il connaît tout. Moi, je suis soufflé.
Ah oui, non, mais c'est pas téléphone. Hein. Téléphone, c'est de la côté, c'est Mike Brandt. Hein.
Ça, c'est l'ouverture d'esprit de Pascal Pro.
Celle-ci, faut quand même la garder. Hein. Téléphone, c'est Mike Brandt à côté du
métal, je veux dire.
Pascal, très sérieusement, de 11h à 13h, tout à l'heure, sur Europe 1, on donne la parole aux auditeurs. Qu'est-ce que vous voulez
à votre avis, on est en colère. Vous savez combien il y a d'étudiants à Sciences Po?
On l'a vu avec Philippe, on a 15 000.
Oui, il y en a 15 000. Il y a sans doute moins de 200 activistes, des Che Guevara en barboteuse. Et la direction se couche, le ministère se couche, le premier ministre se couche. Quel pays? Vraiment, quel pays? C'est les minorités actives dans ce pays. La majorité silencieuse ne disant rien, les minorités actives ont le dernier mot. C'est sidérant. C'est le feuilleton Sciences Po, vous avez tout. Les mots de la France, la lâcheté française, je veux dire, incapables de... Ils ne seront même pas sanctionnés. Voilà des gens qui ont interdit à une étudiante juive d'entrer dans un amphi. Mmh. Voilà des gens qui interdisent à leurs collègues de travailler. Voilà des gens qui crient Israël assassin. Aucune sanction disciplinaire n'est prise contre eux. Ministre paillasson, ministre soumission... Vraiment, je suis en colère ce matin, mais comme tous les gens qui nous écoutent. Et après, on vient nous dire, nous serons intraitables, nous ne laisserons rien passer. Mais il laisse tout passer, tout. Et il est où Gabriel Attal qui était venu à Sciences Po l'autre jour et qui bandait les muscles, qu'on ne l'entend pas depuis 3 jours? Comment veux-tu être crédible après?
Moi, je trouve ça sidérant. Le feuilleton Sciences Po, je le trouve sidérant. Je ne peux pas vous dire autre chose.
Bon, on vous attend sur l'antenne d'Europe 1 pour en parler. Autre sujet, peut-être au programme Matisse, Châteauroux, ça, évidemment, ça fait toujours parler.
C'est, évidemment, oui, mais c'est, ça fait parler. C'est quand même c'est un gosse de 15 ans qui est poignardé à mort à Châteauroux par un mineur afghan du même âge samedi en fin d'après-midi.
Mais comme ça semble banal par rapport à l'actu ces derniers jours, Pascal, c'est ça qui est terrifiant aussi. Hein.
Je trouve que là aussi, c'est tellement invraisemblable. Tellement invraisemblable ce qui se passe dans ce pays. Et après, on dira, le Front National est à 35%, ou le Rassemblement National est à 35%. Et pour cause!
Allez, on en parle tous ensemble sur l'antenne d'Europe 1, c'est de 11h à 13h. Pascal Praud vous attend au standard. Le numéro, Anissa Dadi.
01 80 20 39 21, numéro non surtaxé.
Et Pascal, on vous retrouve d'ailleurs dans 10 minutes pour l'heure des pros. On vous dit à tout de suite. Place à vous, Emmanuel Macron, j'allais l'appeler.
Non, Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Emmanuel Ducrot.
J'en suis surprise.
Ah, oui, non pas, c'est l'enthousiasme. Une affaire. Il faut nous parler d'une affaire qui fait scandale en Allemagne ce matin, Emmanuel. Des hauts fonctionnaires des Verts, du Parti Les Verts, du ministère de l'Économie et de l'Environnement, ont falsifié des rapports pour hâter la fermeture des centrales nucléaires.
Révélation il y a quelques jours du magazine berlinois Cicero. Elles éclaboussent Robert Habeck, le ministre écologiste de l'Économie et de la Transition énergétique. Alors, ce magazine Cicero a ferraillé pendant plusieurs mois avec la justice et l'administration pour obtenir la communication de notes internes. Le journal voulait comprendre pourquoi l'Allemagne avait décidé de fermer ses trois dernières centrales nucléaires en avril 2023, alors que le pays était plongé dans une crise énergétique sans précédent, qu'il était dépendant du gaz russe, en train de voir les prix de l'électricité s'envoler, autant que sa facture carbone, puisqu'elle est, je vous le rappelle, 8 à 10 fois supérieure à la nôtre pour la même production électrique. Tout ça lui semblait irrationnel.
Alors qu'a découvert le magazine Cicero ?
Eh bien, en épluchant les correspondances, les notes internes, il a découvert que de hauts fonctionnaires verts du ministère de l'Économie et de l'Environnement avaient délibérément falsifié des rapports d'experts qui alertaient sur les dangers de fermer les centrales. Ces fonctionnaires voulaient imposer la sortie du nucléaire à tout prix, contre toute raison économique et scientifique. Il fallait prouver le dogme en dépit de toutes les alertes des experts sérieux. L'Allemagne pouvait s'en sortir avec 100% du nucléaire. Eh bien, ils ont fait ce qu'il fallait.
Et le magazine donne des exemples concrets, Emmanuel ?
Bien sûr, une note interne du ministère de l'Environnement de mars 2022. Dans celle-ci, des experts expliquent que la prolongation des centrales nucléaires pendant des années ne pose aucun problème de sécurité. Mais leur avis ne colle pas avec l'idéologie verte obsédée par la sortie de l'atome. Eh bien, leur avis a été réécrit à leur insu. On leur a fait dire exactement l'inverse de ce qu'ils pensaient. Même chose avec des notes d'experts qui expliquaient qu'il fallait prolonger l'exploitation des centrales pour réduire les prix de l'électricité et stabiliser le réseau électrique, ou d'autres notes alertant sur les risques de pénurie d'électricité. Eh bien, elles ont tout simplement été passées à la trappe par des hauts fonctionnaires. Ils ont volontairement soustrait au débat les analyses qui ne convenaient pas à leur feuille de route militante. Bah oui, hein, pourquoi s'embêter avec les faits ?
En tout cas, ça chauffe hein, depuis quelques jours pour le ministre Robert Habeck, il est au courant ?
Toute la question est maintenant de savoir s'il savait. Selon Cicero, le ministre de l'Économie n'a jamais reçu la version originale de certaines notes. Alors lui, dément. Hein. Ces allégations selon lesquelles certaines informations secrètes ne me sont pas parvenues sont fausses. Ça, c'est une défense à double tranchant, hein, qui signifie qu'il a préféré l'idéologie à la sécurité énergétique de son pays. Le feuilleton ne fait que commencer. Des voix s'élèvent en Allemagne pour exiger une commission d'enquête parlementaire, voire la démission de Robert Habeck. Bombe nucléaire à fragmentation dans la vie politique.
Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Bonne journée à vous, Emmanuel. À demain.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Et à 8h52, voici le zapping politique d'Europe 1. Bonjour Dimitri Vernet.
Bonjour à tous. Rappelez-vous, en 2021, de cette polémique, après cette phrase de la ministre de l'Enseignement supérieur de l'époque, Frédérique Vidal.
Je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société.
Malheureusement, force est de constater qu'elle n'avait pas totalement tort. Quand on voit ce qu'il s'est passé à Sciences Po la semaine dernière, un blocage de l'institution par des manifestants pro-palestiniens qui a fait réagir toute la classe politique ce week-end, à commencer par François Bayrou sur LCI.
Je trouve ce qui se passe à Sciences Po terriblement inquiétant. C'est la responsabilité de l'État de ne pas laisser continuer cette dérive-là.
Ou encore la tête de liste LR aux européennes, François-Xavier Bellamy, sur Europe 1 et CNews.
Je crois que le gouvernement devrait stopper les financements publics à Sciences Po. Parce qu'on ne peut pas financer une école qui est devenue le lieu d'un entrisme, de gauchisme et d'islamisme.
Des politiques à l'unisson, enfin, sans compter la France insoumise, bien évidemment. Et oui, Mathilde Panot était sur Paris Première.
Je veux saluer la jeunesse magnifique de ce pays. Je les soutiendrai. Je les soutiendrai autant de fois qu'ils le feront.
Du Panot tout craché, qui j'ai l'impression avait une petite envie de moutarde pendant l'interview.
Enfin, après, vous pouvez faire des polémiques de tout ce que vous voulez. Mais je veux dire, quel mal y a-t-il à espérer dans un idéal que chacun et chacune ait les mêmes droits? Enfin, je sais, quel mal y a-t-il à cela?
The Best, sûrement la musique dans le bureau de Bruno Le Maire ce week-end. Le ministre soulagé après que les agences de notation aient décidé de maintenir la note de la France malgré le dérapage du déficit public. Et je peux vous le dire qu'il l'a fait savoir sur LCI.
C'est un signal clair de la crédibilité de notre stratégie de rétablissement des finances publiques. Et c'est toujours un bon signal quand les agences disent, dans le fond, l'économie française est solide. Regardons lucidement la situation. L'économie française se porte bien.
Bon, faut peut-être pas abuser, Nono, là, quand même.
Le gros mytho.
Ça faisait longtemps, bah oui, vous connaissez Nono. Vous savez comment il fonctionne, ce petit robot. Voici donc deux phrases de cette interview, mais qu'il faudra analyser dans le sens contraire.
Je vous rassure, mes relations avec le président de la République, elles sont très bonnes. Elles l'ont toujours été.
Oui, bon, ça, on le savait. Ensuite.
Je ne prépare pas 2027. Je vous le dis très sincèrement, je ne prépare pas 2027.
Ah, ouais. Donc il est candidat.
Vous êtes l'inconscient, ne connaît pas la négation. Hein.
C'est vrai. Bon, merci Nono.
Je suis Nono, le petit robot. Le gros mytho.
C'est l'ADN de notre majorité d'avoir des comptes publics bien tenus.
Enfin, on termine avec le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, sur BFM TV, qui a tenté, bon, je dis bien tenté, d'esquiver la baignade dans la Seine avec un argument un peu bancal, on va pas se mentir.
Moi, de par ma maman, j'ai des choses de l'ordre de la Méditerranée qui coulent dans mes veines, et moi, à moins de 25 degrés, j'y vais pas. L'eau froide, c'est pas mon truc, donc j'irai pas.
Je viens du sud.
Très bonne excuse.
Très bonne excuse. C'est pas dingue, hein. Bon, après tout, si ça peut éviter à la justice de prendre l'eau complètement, on prend.
Excellent, bravo. Merci. Magnifique, merci beaucoup Dimitri. Alors, j'ai pas bien compris, qu'est-ce qu'elle dit qui vous a choqué, Mathilde Panot?
Qui maille a-t-il?
Ouais. Ah, d'accord.
Quelle maille a-t-il?
Petite envie de moutarde, ça arrive hein, comme ça. Enfin, bon.
Ah oui, d'accord.
Il va recevoir des palettes de moutarde.
Je suis un peu épais ce matin.
On est lundi aussi.
Allez, merci beaucoup Dimitri Verdet. N'oubliez pas, sur Europe 1, dans une demi-heure, Thomas Hill, Culture Média, avec une invitée exceptionnelle ce matin. C'est l'un des plus grands répertoires de la chanson française.
Ah, oh, bah oui, Ray Charles disait d'elle qu'elle était la seule blanche à chanter comme une noire. Nicoletta sera là avec nous pour son album Nicoletta, l'intégrale. Et puis nous aurons notre coup de cœur musical, un live depuis le studio Coluche du collectif musical d'électro-français Bon Entendeur. Eux aussi, ils ont repris Nicoletta. Nicoletta plus Bon Entendeur plus Philippe Charlier dès 9h30 sur Europe 1. Quel programme!
Effectivement, et vous, l'info continue. On vous souhaite une excellente journée. L'info continue sur Europe 1. C'est Pascal Pro qui prend le relais lors des pros dans un instant. Bonne journée.
Europe 1.
C'est très bien ton nom.
En 2024, les enjeux pour l'économie du sport en France sont nombreux. Comment cette année sportive servira-t-elle de vitrine aux entreprises tricolores? La réponse, c'est dès demain, 21h sur Europe 1 dans La France Bouge, présentée par Elisabeth Assayag avec Alain Di Crescenzo, le président de CCI France, en partenariat avec la CCI Bayonne Pays de Basque.
Bonjour, je suis Laurence de Carglass. On fait quoi en cas d'impact sur son pare-brise? On appelle Carglass au 3044. Et si on a deux impacts, c'est toujours Carglass au 3044. C'est simple. Une urgence sur votre pare-brise? Allô Carglass au 3044. Et pour prendre rendez-vous rapidement chez Carglass, c'est le 3044. Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
Chaque printemps, nous, producteurs de la coopérative des Noirmoutiers, récoltons la pomme de terre primeur de l'île. La Noirmoutier, c'est un an de passion et de travail pour une saison qui ne dure que 3 mois. Cette année, plus que jamais, nous avons à cœur de vous régaler chez vous. Profitez-en maintenant. La Noirmoutier, unique, comme son nom l'indique.
Entre passé et présent, héritage culturel et création contemporaine, l'artiste Jiang Chong-Or réinterprète les traditions chinoises millénaires au musée Guimet. Des installations monumentales et spectaculaires, une réflexion visionnaire sur le temps Un parcours sensoriel et spirituel comme un pont entre la France et la Chine. Gardien du temps, à découvrir dès maintenant au Musée Guimet, avec Europe 1.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, elles sont à 2,49€.
Les tomates anciennes ?
Bon, comment vous avez deviné ? En ce moment chez Lidl, le kilo de tomates anciennes est à 2,49€.
2,49€ le kilo de tomates anciennes ? Mais ce prix, je vais le prendre en grippe.
Bah, c'est le vrai prix, patron, hein ?
Oui, bah, allez, t'arrêtes, hein, parce que je vais me fâcher tout rouge.
Bah, tout rouge, oui, comme une tomate.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Catégorie 2, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Europe 1 et CNews, 9h, 9h30, l'heure des pros, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros sur Europe 1 de 9h à 9h30 et sur CNews de 9h à 10h30. Il y a 15 000 étudiants à Sciences Po en France. Il existe sans doute moins de 200 activistes, une poignée de Che Guevara en barboteuse. Et la direction de Sciences Po Paris, la direction Paillasson, s'est couchée devant eux. Et ma